Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dans ce premier épisode de l'année 2022, Laurent Grandmangin est de passage en studio. L'athlète d'athlétisme pour l'équipe masculine du Vert et Or est venu discuter avec nous de décathlon, d'athlétisme en général, de la situation actuelle avec la COVID, ainsi que de l'arrêt des sports intérieurs au moment d'enregistrer. Son parcours secondaire à l'école secondaire du Triolet, ainsi que de notre péripétie commune au Vietnam ont également été présentés, ce qui offre un épisode tout aussi sérieux que décontracté. Sur ce, bonne année 2022 et bon podcast. Ça tourne. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui.
Merci de venir dans le studio. Ce soir, on tourne le 20 janvier. Parce que c'est mon premier épisode depuis le retour des fêtes.
T'es
le
premier.
Ouais.
Wow, c'est un honneur.
C'est super fin. Mais c'est ça. Merci d'être là. Donc, avant de poursuivre, je te laisse te présenter. Qui tu es? Programme d'études. Ton rapport avec le sport que tu fais ici au Vert et Or. Puis ensuite, on déboulera par la suite.
Parfait. Ben moi, je m'appelle Laurent Grandmangin. J'ai grandi à Sherbrooke. Je suis à l'Université de Sherbrooke, évidemment, dans le Vert et Or athlétisme. J'étudie à l'école de gestion en finance et gestion des technologies d'affaires.
Wow. OK. Donc, on va tout de suite aller dans le bac parce que je m'intéresse beaucoup aux études des différents athlètes qu'on a puis que j'invite ici. Qu'est-ce que tu fais concrètement à finance et technologie des affaires, si tu peux me replacer, puis ça nous dire en gros qu'est-ce que ça touche concrètement.
OK. Ben dans le fond, la finance, c'est sûr qu'on va aller vraiment regarder dans les états des résultats, les bilans des compagnies. On va vraiment toucher tout ce qui est les rapports vraiment de résultats, là. Fait que la performance des compagnies, on va faire de l'évaluation d'entreprise et tout. On va aussi regarder un petit peu de la gestion de portefeuille, la gestion du risque. On va faire plein de choses là-dedans. Au niveau des gestions des technologies d'affaires, c'est vraiment plus de mon côté, en tout cas, c'est vraiment plus de la gestion de données. Fait que comment on intègre des données en entreprise, de l'intelligence d'affaires, comment on peut utiliser ces données pour vraiment aller chercher une meilleure expertise pour des compagnies ou même des particuliers, mais principalement des compagnies. Fait que c'est vraiment surtout de la gestion de données ce que je fais en ce moment.
Super intéressant. Puis, est-ce que avec ce type de discussion que tu viens de nous faire, là, c'est assez cliché cette question-là, mais quel job tu veux faire avec ça? Y a-t-il quelque chose en particulier ou tu le sais pas trop encore?
Je sais pas vraiment encore. J'ai jamais vraiment eu une vision claire de ce que je voulais faire dans la vie, là. Mais c'est sûr qu'avec la dernière session, j'avais un cours de gestion des technologies d'affaires qui était plus orienté vers l'intelligence d'affaires, justement. Puis ça m'a quand même parlé. Fait que faire, tu sais, de la vente de services web ou des logiciels, des softwares, ça m'intéresse quand même. Mais c'est encore vraiment à voir. Là. Je sais pas encore. Il y a des aspects de la finance que j'aime encore aussi. Puis j'aimerais peut-être mélanger les deux, mais ça reste à voir encore.
Puis il te resterait un an à ton bac et je veux pas dire n'importe quoi. Là.
Une demi-année en fait. Ça, je finis à la fin de l'été prochain. J'étais en stage en ce moment. Ouais. Puis une dernière session à l'été. Puis après ça, fini le bac.
Ah, fort. D'un, ton stage est où?
Mon stage, c'est Sherweb en ce moment.
Ouais. Ben, ouais, puis. En fait, curieusement, Sherweb, j'en entends parler beaucoup, partout, mais concrètement, je sais pas qu'est-ce que... T'sais, pour moi, quelqu'un qui est pas en finance, mais je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là-bas, donc peux-tu nous le décrire un peu ce que tu fais?
Ben, personnellement, mon stage chez Sherweb touche plus la finance, mais Sherweb est une compagnie qui touche plus la technologie d'affaires. Là. Je vais garder ça limité aussi, mais ils font de la revente de services web, fait que des plateformes, des softwares et tout, qui vendent à des compagnies. Un peu comme exactement ce que je disais dans le fond. Mais moi, mon rôle, je suis un petit peu plus dans le côté financier et comptabilité de l'entreprise, dans le fond.
Sharp. Puis sinon, je vais un peu plus loin encore, mais mettons, as-tu pensé à maîtrise ou pas du tout?
Ben ouais, c'est ça, justement. Ça fait longtemps que Je savais que je voulais faire une maîtrise, mais je savais pas vraiment dans quoi. Puis là, justement, la maîtrise d'intelligence d'affaires, elle m'intéresse quand même. Fait que ça, c'est sûr que ça serait dans les plans. Là. Je vais sûrement la regarder pour peut-être pas l'automne prochain, parce qu'un bac en coop non-stop pendant 3 ans, ben.
Donne-toi un break.
Là. Non, maintenant, on veut un petit break. Là. Fait que peut-être que l'automne, je travaillerai ou je ferai quelque chose d'autre, là, mais à l'hiver, peut-être regarder ça pour la maîtrise en intelligence d'affaires.
Tu viens de me placer un mot, c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'athlètes en coop qui sont venus ici, mais c'est vrai, on n'a jamais parlé du... Quand t'es en coop, ben, t'arrêtes pas pendant 3 ans et demi ou 4 ans.
Là. Nous, c'est 3. Ça dépend. Non, c'est 3. Mettons, j'ai un coloc qui est en génie électrique. Lui, c'est la même chose que moi, mais c'est 4 ans.
J'ai un de mes meilleurs chums en génie civil. Puis c'est ça, il n'arrête pas 4 ans en ligne. Bon, t'as des super belles expériences, mais c'est quand même 4 ans exigeantes. Ou est-ce que t'as-tu un break? Oui, moyennement. Genre.
En fait, techniquement, entre la session d'automne et d'hiver, t'as un bon petit 2 semaines cette année avec COVID. On a eu 3 semaines, on a été chanceux de pause avec les fêtes. Après ça, entre la session d'hiver puis d'été, là, on a 1 fin de semaine de pause. C'est vraiment 2 jours. Là. Chaque année, à date, ça a été ça. Là. On avait juste 2 jours de pause. Puis après ça, on a souvent 1 semaine et demie, 2 semaines entre l'été et l'automne. Fait que c'est pas les plus grosses vacances, non. Il n'y a pas vraiment de voyage qui se fait dans ces, dans ces périodes-là, là, à part dans les fêtes. Là. Mais non, c'est ça, c'est assez rigoureux.
Il y a du positif et du négatif, mais c'est bon d'en parler quand même parce que je vais comparer avec moi où est-ce que je suis pas en coop et j'ai pas de session d'été. Fait que moi, l'été, j'aime pas ça le dire de même, là, je chill. Là, mais
ben oui.
C'est genre, j'essaie de. Comme là, l'été dernier, j'avais fait un mini-stage, mais c'était pas quelque chose de temps plein, ça me prenait quoi, 5 heures par semaine, un petit stage pour quelque chose continuer là-dedans, mais c'est pas comme vous. Donc, ouais, je lève mon chapeau à ça parce que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, peu importe. Là,
non,
ça...
c'est sûr, là, mais un point qui aide un petit peu, c'est que, tu sais, il y a certains programmes. Il y a certains programmes qui ont besoin de leur été de pause pour pouvoir aller, je sais pas, travailler, faire un peu de l'argent pour le reste de l'année. Là. Nous, au moins, on a des stages rémunérés en gestion. Fait que ça, c'est. Au moins, ça vient un peu compenser. Là. Fait que c'est fun quand même.
Puis en allant sur une autre direction, là, on va parler de ton sport, l'athlétisme. Pour les autres auditrices qui nous écoutent, tu me diras si je me trompe. Moi, je me rappelle d'un Laurent Grandmangin au secondaire à Sherbrooke. Hyper dominant. Moi, j'ai compétitionné, je pense. J'ai fait 2 compétitions pour. J'étais pas là-dedans, là, pas en tout en athlétisme, mais je savais, mettons, dès le début de mon secondaire, comme le monde qui gravitait autour de l'athlétisme, on te connaissait parce que tu étais un bon athlète de décathlon à ce moment-là. Là, ça a changé, malheureusement, avec le contexte que tu vas nous expliquer à l'instant. En tout cas, je l'espère, mais ça pour dire que l'athlétisme, ça fait longtemps que tu es là-dedans.
Ouais.
Peux-tu décrire ce que. Comment tu as. T'es embarqué dans ce milieu-là, quand même assez vite, ben pas vite, mais jeune, puis comment ça s'est développé au travers des années jusqu'à aujourd'hui.
Ben ouais, pas de problème. Dans le fond, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Là. Je parle de 7. J'ai commencé le snowboard, mettons, à 6 ans. J'avais essayé un peu de faire un peu de basket. J'avais essayé plusieurs sports à gauche, à droite. Puis j'ai joué au soccer quand même un bout. Puis à un moment donné. Ben, j'étais pas super bon, ça, que, honnêtement. Je courais trop vite pour la balle. Je courais trop vite pour le contrôle de balle que j'avais. Fait que je perdais souvent la balle. Puis j'avais beaucoup d'énergie. J'aimais beaucoup courir. Fait qu'à un moment donné, l'été de mes 9 ans, je pense, on regardait avec mes parents un sport que je pourrais essayer. Puis là, on avait vu le club d'athlétisme de Sherbrooke qui faisait un camp de jour, dans le fond, un camp de jour pour toute l'été. Fait que j'avais décidé d'essayer ça, puis j'ai juste jamais arrêté. C'est les gens qui me coachaient à ce temps-là, quand j'avais 9 ans, eux, il y en avait peut-être 15-16, je les connais encore, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, le monde athlétique, c'est un petit monde, là, je veux dire, on se connaît.
J'ai cette même impression-là aussi.
Ouais.
Fait que c'est drôle que tu me le dises.
Fait que c'est ça, au début, tu parles du décathlon. Le décathlon, c'est sûr que c'est, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais l'expliquer tout de suite.
Bonne idée.
Les épreuves combinées. Dans le fond, c'est plusieurs épreuves. En fait, c'est pour les personnes qui sont polyvalentes, qui sont pas super bons dans une épreuve, mais sont bons dans quand même plusieurs épreuves.
Damien Warner, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard.
Ouais, Damien Warner, mettons. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a plusieurs épreuves combinées. Fait qu'à l'intérieur, il peut y avoir le pentathlon qui va être 5 épreuves, il va y avoir le heptathlon qui va être 7 épreuves, il va y avoir le décathlon aussi à 10 épreuves. C'est pas mal les principaux qu'on retrouve. Fait que dans le fond, si on parle du décathlon, mettons le décathlon, ça va être 5 épreuves, ben 10 épreuves sur 2 jours, donc 2 jours de 5 épreuves. Puis on a des points pour chaque performance. Fait que mettons, tu cours 11 secondes au 100 mètres, ben tu vas avoir tel nombre de points. Pour chaque performance dans chaque épreuve, tu as un nombre de points, puis c'est celui qui a le meilleur pointage cumulatif à la fin. Fait que ça n'a pas rapport avec les positions, même si tu finis premier dans tout, tu n'es pas nécessaire. Je veux dire, ben oui, si tu finis premier dans tout, c'est sûr que tu gagnes, mais on s'entend que tu peux être deuxième partout, mettons, mais quand même avoir une position différente parce que c'est vraiment la performance que tu fais.
Il y a des position. Barèmes préétablis avant chaque épreuve.
Exact.
Si tu le perds, ce barème, tu as plus de points que si tu le en fait percer.
Ben c'est des chartes. C'est des charges. Fait que là, mettons, pour le sprint 100 mètres, mettons, 11 secondes égale à 800 points. 10 secondes 80 égale à 830 points. T'sais, ça monte comme ça. Fait que t'as vraiment des charges préétablies. Là. Fait que c'est un peu ça les combinés. Fait que c'est vraiment plus pour les athlètes polyvalents. Comme moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours été comme au niveau, mettons, régional et provincial. J'ai toujours performé quand même dans plusieurs épreuves individuelles, mais si je les mettais ensemble, je performais encore beaucoup plus, puis là, je pouvais me rendre sur la scène nationale aussi.
C'est quelle épreuve que t'aimais le plus? Ben, en fait, que t'aimes, voyons, je dis ça comme si t'avais fini de faire l'athlétisme, excuse-moi, mais quelle épreuve que, quand tu pratiquais le décathlon, tu t'aimais le plus faire, tu sais, qui te poussait un petit peu plus que les autres, puis n'avais-tu une? Ou...
Je dirais les épreuves que, mettons, à ce jour encore, les épreuves que j'aime le plus, je dirais... 400 mètres, 110 mètres et puis le son longueur. Son longueur, c'est quand même, ça va toujours rester. Mais c'est ça, en fait, dans le fond, ça a continué comme ça. Si on reprend l'histoire un peu, là, j'ai commencé avec le camp de jour et tout, puis je suis juste resté, j'ai juste vraiment aimé ça. Je me suis fait des amis là, puis je suis resté, puis je suis revenu à chaque année, puis à un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner à l'année longue. Fait qu'au début, c'est sûr que c'est vraiment pas, tu sais, je veux dire, de 9 ans jusqu'à ce que je rentre au secondaire, c'est vraiment pas. Sérieux. J'allais faire des compétitions à Montréal et ailleurs au Québec, mais c'était vraiment plus, tu sais, plus amical, c'est vraiment plus le fun, on est jeune. Mais j'ai toujours fait toutes les épreuves en étant jeune. Je faisais du saut en hauteur, du saut en longueur, principalement les courses et les sauts, mais je faisais pas mal toutes ces épreuves-là. Fait que c'est ça qui a fait que je suis devenu un athlète de combiné. Le fait d'en faire beaucoup étant vraiment jeune. Fait que le fait de vraiment toucher à toutes ces épreuves-là m'a rendu un polyvalent dans toutes ces épreuves-là. Fait qu'à un moment donné, quand je suis arrivé au secondaire, ben mon coach il m'a vraiment aligné pour faire des épreuves combinées.
Puis c'est fou que. Tu sais, moi, j'avais invité Sophie un peu avant au podcast au mois d'octobre, peu importe. Mais ce que je voulais dire, c'est que on parlait justement d'athlétisme, à quel point c'est des. Je trouve que c'est un beau sport, c'est noble. Puis ça, je lui disais, puis tu sais, j'en avais fait un petit peu pour le fun, mettons, au début, tu sais, au primaire, début de secondaire, mais après ça, je me suis concentré sur autre chose, mais ça a toujours été quelque chose de solide. Fait que le fait de. Moi, je trouve que la position de décathlon, c'est quelque chose de formidable, parce que justement, tu te lasses pas à faire toujours la même affaire, selon moi. Fait que tu sais, est-ce que ça pesait dans la balance aussi, c'est à ce moment-là, tu sais, tu disais, j'aime tout, fait que ça aurait été plate que je me tourne juste vers une affaire comme juste le sprint, fait que tu pouvais te compenser ailleurs aussi, si je peux, si on peut se le permettre.
Honnêtement, ça a vraiment été un choix naturel pour moi, genre ça, j'ai même pas vraiment eu de question avec ça, c'était comme, le pentathlon existe, quand j'étais jeune, quand on est plus jeune, c'est moins d'épreuves, c'est 5, fait que c'est, le pentathlon existe, ben c'est sûr, je vais faire ça, je veux dire, je performe super bien soit en hauteur, soit en longueur, puis en sprint. Ça compose déjà 3 des 5 épreuves. Puis le dernier, c'est une course de long puis un lancé. Un lancé, je suis capable de me débrouiller. Puis une course de long aussi, je veux dire. Là, après ça, plus on augmente d'épreuves, ben c'est sûr que plus il faut s'entraîner. Mais ouais, c'est ça. C'était vraiment le choix naturel d'aller vers le décathlon.
Puis pour ce qui est... là, c'est ça. On expliquait... Malheureusement, le décathlon, pour toi en ce moment, c'est du passé, si on peut se le permettre, mais
un peu.
C'est ça, un petit peu. Donc, comment peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Tu sais, là, j'ai. Moi qui viens de l'apprendre, en fait, que.
Ouais, c'est ça.
Là-dedans. Fait que d'ailleurs, d'abord, je m'excuse. Je n'étais pas assez bien préparé. Mais c'est presque. Ça. Donc, je veux l'entendre, cette histoire-là. Okay. Comment ça, tu as dû te concentrer plus vers autre chose que juste le décathlon complet. Là.
Ouais, ben c'est une bonne histoire quand même. Dans le fond, c'est ça. Après ça, plus le secondaire a avancé, plus je faisais de combiné. Puis, dans le fond, en secondaire, à la fin secondaire, entre l'été secondaire 4 et 5, j'avais 16 ans. Je veux dire, ouais, j'avais 16 ans. Donc, à 16 ans, j'étais allé au championnat de la Légion. Puis, c'était ma première participation. Fait que les championnats de la Légion, c'est les championnats canadiens pour les moins de 18 ans. Fait que j'étais allé au championnat canadien, j'ai fait le décathlon.
Il était où les jeux?
Il était à Sainte-Thérèse. C'était vraiment pas tant loin. Puis c'est ça, fait que j'étais pas avec l'équipe du Québec, j'étais vraiment allé indépendant. Fait que je courais avec la camisole du club de Sherbrooke. Parce que je m'étais pas qualifié pour la team du Québec. Mais j'ai gagné les championnats canadiens. Puis j'ai fait le record vu que c'était le record, c'est surtout parce que c'était la première année aussi qui faisait ça, mais j'ai établi un record du décathlon pour la compétition. Okay. C'était quand même une bonne performance. L'année d'après, c'était puis j'étais la première année de ma catégorie. J'étais la première année de U18. Parce que j'avais
16 ans.
J'avais 16 ou 17 dans le fond. En tout cas, c'est plus important, mais j'étais la première
jeune,
année.
Puis il y avait une sorte de circonstance qui a fait que tu n'étais pas dans l'équipe du Québec, mais tu aurais pu y aller.
Ouais, j'aurais pu, mais la sélection de l'équipe du Québec, ça dépend. Des fois, il y a des athlètes meilleurs qui vont pas parce qu'à telle compétition, ils n'ont pas performé au bon moment et tout. Mais
OK.
Ça peut être frustrant des fois, mais vu que c'était à Sainte-Thérèse, c'est pas grave. Parce que dans le fond, si c'est ailleurs au Canada, ben, puis tu n'es pas avec l'équipe du Québec, ben là, tu débourses de ta poche pour y aller. Tandis qu'à Sainte-Thérèse, c'est pas bien grave. Fait que là, l'année d'après, là, j'étais rendu à ma deuxième année de la catégorie juvénile, qu'on appelle. Puis là, j'étais sur l'équipe du Québec. Fait que j'étais allé avec... c'était encore au même endroit, Sainte-Thérèse, parce que les championnats sont tenus pour 2 ans au même endroit. Puis je suis allé avec l'équipe du Québec cette fois-ci. Puis que je participe au décathlon avec l'équipe du Québec, puis ça va super bien. La compétition va vraiment bien, là. Puis je suis en train... Je suis sur un pace de vraiment exploser mon propre record de l'année passée. Puis, c'est ça. Fait que je pense que j'étais ça vous dira rien, mais j'étais en avance de à peu près 300 à 400 points à la 8e épreuve. Fait que ça vous dit pas grand chose, mais c'est une bonne avance. Puis, à la 8e épreuve, qui est la perche, je me suis fait une entorse à la cheville, mais comme de grade 3, là, vraiment, vraiment intense. Là. Quelque chose que je pouvais pas revenir. Là. Je pouvais pas revenir pendant la compte.
Pendant ton lancer? C'est un lapsus, là, si je veux dire. Papa, oh mon Dieu.
Ouais, genre, c'était les dernières semaines avant, j'avais un peu délaissé l'entraînement de perche. Là, j'étais arrivé en compétition, puis ma marque fonctionnait pas. Bref, quand j'étais arrivé pour sauter, ma cheville a juste complètement tourné. Je suis tombé dans le matelas. Là, l'officiel, elle a dit mon nom pour le deuxième ou troisième essai, je sais plus. Et... j'étais comme non, je peux pas sauter, ma cheville était déjà grosse, elle était immense là. Fait que j'ai dû arrêter, j'ai même dû repartir chez nous. Normalement, tu sais, avec l'équipe du Québec, tu dois rester là, mais là j'ai signé quelque chose avec les responsables parce que ma cheville était vraiment amochée là. Il a fallu que j'aille à l'hôpital pas mal vite. Ben pas à l'hôpital, je veux dire à l'urgence, mais c'était quand même une bonne blessure.
Fallait que t'ailles la gérer. Là.
Exact. Fait que, tu sais, j'étais juste en béquille, la jambe par en bas. Puis vu que mes ligaments étaient complètement déchirés, ben le sang, il faisait juste comme couler dans ma cheville. Ça faisait juste enfler. Fait que, ouais, c'était pas super le fun. Fait que de là a parti ma grande lignée de blessures. Avec cette blessure-là, tu sais, je suis resté 2 mois avec une grosse botte. Okay, j'ai commencé le cégep avec une grosse botte sur mon pied. Cette botte-là a fait que pendant 2 mois, ma jambe a vraiment atrophié. Fait que ça a vraiment été dur de revenir puis de la rendre puissante. Même à ce jour encore, ça, c'est 2016. Ça, c'est 2016. Fait que tu sais, depuis 2016, j'ai une jambe un petit peu plus petite que l'autre. Ça revient un peu, là, mais j'ai quand même une jambe un petit peu plus petite que l'autre.
Oh mon Dieu. OK. C'est ça. Ça va loin.
Mais ça, c'était juste la cheville. La cheville est revenue assez vite. Je veux dire, j'ai pu compétitionner en 2017. J'ai fait les championnats canadiens encore en 2017. Puis là, c'était les championnats canadiens juniors, vu que j'étais rendu une catégorie au-dessus. C'était pas la meilleure performance de toute ma vie. Mais pendant l'année où. Je veux dire, pendant. Oh.
Non, non, il n'y a pas de stress.
J'ai accroché de quoi?
Non, c'est good.
Mais. Ah, c'est ça. Okay. Fait que pendant cette année-là, dans le fond, j'ai pu moins travailler les épreuves de puissance parce que ma cheville suivait pas. Elle avait pas assez rétabli. Fait que j'ai moins pu travailler les toutes les épreuves de puissance, je veux dire, son hauteur, son longueur, 100 mètres et tout. Mais j'ai pu travailler beaucoup les lancers vu que c'était du haut du corps, j'ai pu travailler la perche énormément. Donc j'ai quand même fait une bonne performance en 2017 malgré que toutes mes épreuves de puissance étaient vraiment moins bonnes. Les performances étaient vraiment, vraiment moins bonnes que l'année d'avant. Puis j'ai quand même gagné les championnats canadiens juniors qui étaient en même temps la Coupe Panam. Fait qu'il y avait des athlètes d'ailleurs dans en Amérique. Fait qu'il y avait un, je pense qu'il y avait un gars de... Il y a des gars des Bahamas, puis je ne sais plus où, mais il y avait quelques autres pays.
C'est une grosse compée.
Ouais,
j'étais où à ce moment-là?
C'était à Ottawa, celle-là.
Okay, Ottawa.
C'était la Coupe Panam de combiné. Puis j'avais même l'équipement de l'équipe du Canada, vu que c'était une coupe, il y avait un peu plus d'athlètes. J'ai gagné ça, il n'y avait pas les meilleurs athlètes à cette compétition-là, mais je l'ai quand même gagné, puis j'étais assez fier de cette compétition-là.
Avec une jambe en moyenne.
Ouais, c'est ça, avec cheville, je veux dire, pas à 100%, ouais, je veux dire, fait que c'était quand même, c'était vraiment une compé, une expérience vraiment intéressante. Fait que là, j'étais arrivé à l'automne 2017, puis là j'étais comme, OK, là, cet automne, on se remet en bonne shape pour qu'en 2018, ça aille bien. Puis là, en recommençant la perche, j'ai commencé à développer une douleur au tendon rotulien gauche.
Vraiment nice.
Puis cette douleur-là, elle a jamais arrêté, ça fait 4 ans. Fait que c'est pour ça que le décathlon a un peu pris le bord après ça. On essayait de faire revenir le tendon, mais ça a été difficile. Fait que là, je suis rendu à une étape où je me dis, au lieu de juste attendre que mon tendon guérisse, je suis comme, OK, je vais essayer juste d'autres épreuves parce que le tendon me nuit juste dans les sauts. Il me nuit pas pour courir. Fait que là, maintenant, je fais des haies, je fais du 400 mètres, puis potentiellement un jour, si le COVID slack un petit peu aussi, là, on va peut-être essayer de retourner sur le décam, mais c'est pas sûr encore.
Okay. D'ailleurs, tu mets le doigt sur la COVID. Mais Saint-Mathien, il y avait une épreuve qui était supposée être faite début janvier à Sherbrooke. Genre, l'invitation vers l'or. Puis quand. Je sais pas quoi. Je sais même plus quoi dire là-dessus, sa situation, parce que.
Oh, c'est un peu lourd, là.
c'est un peu lourd. Puis tu sais, toi, en plus, t'as fait même pas un an en présentiel à Sherbrooke avant que ça pète de partout. Là,
ouais.
Puis c'est de même que. Ah, oh, je sais. Ça me frustre pour vous. Ouais.
Ben, tu sais, je dirais que mes années vers or n'ont pas été. La COVID a un peu choppé mes années vers or. La première année, quand je suis arrivé, j'avais encore ma blessure au genou. Fait que j'ai pris ça un peu plus mollo. J'ai fait quand même une ou deux compétitions, mais pas assez pour que ça compte vraiment comme une année vers or. Genre, je veux dire, j'ai pas participé au pic de la saison. Je peux aller au championnat canadien avec l'équipe. On s'était dit qu'on allait garder cette année-là pour une autre année parce que ça valait pas la peine vu que j'étais pas à 100%. Finalement, l'autre année d'après 2020, on sait ce qui est arrivé. On a été coupé avec le COVID. Ce qui nous amène à cette année. Cette année, c'était vraiment notre année. Je me suis entraîné. On s'est entraîné vraiment fort cet automne. On était prêts. On a fait deux compétitions juste avant les fêtes, avant que ça pète. On est allé à y en avait une à Sherbrooke, puis on est allé à Québec aussi.
La compétition des champions, c'est ça?
Ouais, défi des champions.
Ouais, défi, excusez. Un lapsus, mais ouais, j'en avais
un. Exact. Vu. Défi des champions à Sherbrooke, ça avait vraiment bien été. On avait fait des bonnes performances. J'ai fait un comeback cette année un petit peu plus sur les haies, 60 mètres haies. Puis ça allait bien. C'est top 12 qui peuvent aller au U-Sports. Puis j'étais. Ben, juste avant que COVID pète, je pense que j'étais 7e ou 8e. Fait que pour l'instant, j'avais mon ticket. C'est sûr que le classement, il change vraiment au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'instant.
La saison,
ouais. Exact. Mais tu sais, mes performances auraient avancé aussi. Donc, pour l'instant, j'avais mon ticket. Mais là, on a appris que notre saison était scratchée, là, était cancellée. On n'a plus de compétition. La compétition du Varior Invitation a été annulée. Il y a des compétitions à McGill qui ont été annulées et tout. Fait que pour l'instant, on est un peu dans le néant. Là. On n'a pas vraiment de nouvelles ni de compétition.
C'est un peu de. C'est comme tous les athlètes actuellement. C'est dommage que vous, tu sais, je pense juste aux sports d'intérieur, vous autres, l'athlétisme, voler ou les sports comme ça, c'est. Faut que ça joue là. Le mois de janvier, puis février, c'est là que ça, ça se corse, tu sais, pour le gros de la saison. Puis là, ben, il arrive ça où est-ce que. C'est pas ce qui se passe.
Ouais.
Est-ce que vous avez accès au gym? Ben, au gym, je dis au gym. La piste de track ou non?
Ouais. On a accès en ce moment. Ça a changé un petit peu, là, mais dans les dernières semaines, c'était tout seul ou à deux maximum, pas de supervision, masque et tout. Je vais avouer que c'est pas le. en ce moment, on est la majorité du monde, on n'a pas la plus haute motivation. Parce que, je veux dire, si on s'était fait dire, vous n'aurez pas de compétition pour, je sais pas, un mois et demi, puis après ça, ça reprend. Ça nous aurait gardé une motivation parce qu'au moins, on sait qu'à telle date, on peut courir. Puis que les championnats canadiens, ils vont être reportés ou whatever. Mais là, c'est qu'on est laissé dans le néant. Je veux dire, ça fait un mois qu'on ne sait pas si on a une saison ou pas. On sait rien. Je veux dire, la RSEQ, tout ça, on n'a pas eu autant de nouvelles. On est vraiment un peu laissé à nous-mêmes. J'ai vu beaucoup de... Puis tu sais, il y a beaucoup de... J'ai vu, mettons, McGill qui ont fait une publication pour qui concerne tous les étudiants athlètes.
J'ai bien aimé.
Tu l'as vu aussi?
Oui, je l'avais.
Ouais, moi aussi, je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça... C'était on point, là. Il visait juste, là, je trouvais. Là.
Tu sais, il suivait le mouvement de la Conférence d'Ontario côté universitaire, là, un peu comme la RSEQ, mais version Ontario. Puis, parce que, tu sais... on peut en parler pour les auditeurs, auditrices qui savent pas ce que l'Université McGill ont fait. Ils ont fait une lettre ouverte revendiquer au gouvernement. Je m'excuse dans les termes, là, mais ils poussaient vraiment le gouvernement à rouvrir les sports aux athlètes universitaires, surtout. C'était vraiment focusé là-dessus parce que l'athlète universitaire ne veut pas, c'est un méchant gros calibre. C'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont à l'école que c'est pas des athlètes de haut niveau, au contraire, laissez-nous compétitionner.
Et quoi, ça peut être une première step jusqu'à jusqu'à devenir un athlète de haut niveau, dans le sens qu'on peut, il y en a beaucoup qui commencent une carrière professionnelle, mais ils la commencent à l'université. Fait que là, ils font des bonnes compétitions et tout, puis après ça, ils passent au niveau professionnel, mettons.
Non, c'est ça, puis ce que, en ce moment, ils nous considèrent. Parce que.
L'affaire, c'est qu'ils considèrent les gyms, les restaurateurs et tout. Ben, ils considèrent, je sais pas à quel point, là, mais c'est. Nous, on n'est pas. C'est pas juste une activité scolaire. C'est ça que le gouvernement, j'ai l'impression qu'il. On fait pas juste ça pour le fun. C'est vraiment. Ben oui, on fait ça pour le fun, mais c'est aussi. Tu sais, je fais ça depuis que j'ai 9 ans. Là. Plus que la moitié de ma vie a été dédiée à l'athlétisme. Fait que tu m'enlèves, que ça fait 2 saisons que je puisse pas faire, je veux dire, c'est un peu... OK, la première, on a peut-être pas eu le choix, là, mais je veux dire, à un moment donné, on a besoin de ça aussi, nous. C'est pas juste un hobby, là. C'est quand même d'un certain côté, c'est une carrière, je veux dire, c'est une carrière sportive, là. On veut l'avancer, cette carrière-là.
Ça permet... On n'ira pas dans un débat en savoir que le sport, c'est important pour... diverses facettes de notre vie.
Le monde le sait.
Oui, mais... c'est ça. C'est frustrant. C'est vraiment ça. Frustrant. Pour une deuxième année consécutive, c'est comme le jour de la marmotte, comme j'expliquais à mes autres. C'est OK, fine. C'est quoi, après les fêtes, ça va toujours être comme ça, ou est-ce qu'on sait pas, puis là, tu nous laisses dans le néant comme ça, puis c'est juste le foot qui peut jouer parce que nous, on est chanceux que ça soit juste à l'automne. T'sais. C'est comme bon. OK.
Je connais des athlètes qui... Tu sais, mettons, il y a un gars dans l'équipe qui est vraiment venu à l'université de Sherbrooke pour l'athlétisme. En fait, j'en ai deux qui me viennent en tête. Ils sont venus vraiment, ils n'avaient pas nécessairement besoin de venir à l'université. Leur plan de carrière leur faisait prendre une autre branche qui n'avait pas besoin de venir à l'université, mais ils sont venus à l'université pour faire un bac ou un certificat, mais vraiment principalement pour faire de la track, pour venir faire de l'athlétisme.
Parce qu'à Sherbrooke, c'est bon, on est un bon programme d'athlétisme, gros.
Exactement. Puis, mettons, il y a mon coloc qui vient de Gatineau. Il vient de Gatineau pour la track. Puis, il fait son standard première compé, il est content. Puis, ben, suite après, on se fait dire, hey, non, vous n'avez pas de saison, les gars. Je veux dire, c'est ça qui était le plus frustrant. Je veux dire, si on se l'était fait dire en septembre, OK. Mais là, on a eu un taste of it. Je veux dire, on a été en compétition. On a fait 2 compétitions. On a vu les standards. On s'est mesuré aux autres universités. On a juste gratter la surface, puis là, on se fait dire « Ah non, vous en avez plus. » C'est juste, on se le fait voler, puis c'est plat. Puis tu sais, je veux dire, mettons si t'étais venu là, au défi des champions, là, oui, il y a beaucoup de monde sur la piste, mais c'est quand même gros, une piste. Là. Je veux dire, on aurait pu faire des... Il y aurait certains moyens de faire des compétitions à huis clos, mettons. Là. Pas de spectateurs pour le volleyball, c'est la même chose. Là. Imagine, t'as juste les joueurs sur le terrain. Les joueurs, ils s'entraînent, ou les joueurs ou joueuses, ils s'entraînent tout le temps ensemble, fait qu'ils sont corrects. Là. Je veux dire, t'as 2 équipes sur le terrain, pas de spectateurs, il y a moins de risque de contamination. Je veux dire, il y aurait moyen de faire de quoi. S'ils voulaient vraiment nous aider, nous les étudiants athlètes, il y aurait moyen de faire quelque chose après moi.
T'sais, on est gros dans les tutoriels, puis j'aime ça parce que tout ce qu'on dit, moi je suis très d'avis que c'est très légitime parce que je te pose la question, effectivement, je te relance la question, cours-tu si c'est à huis clos? Tu y vas, tu sors du studio en courant puis tu y vas sur la piste, là, c'est même pas ça la question. Là.
Hey, excuse, mais oui, c'est le fun courir avec un crowd. Je veux dire, c'est le fun de se faire encourager. C'est le fun qu'il y ait une ambiance. Mais je veux dire, si on a le choix entre ne pas du tout avoir de saison ou huis clos, on sait tous le choix qu'on va prendre.
C'est... Je compatis avec vous, tu sais. Je dis ça parce que probablement que je le savais même pas, puis mes autres auditrices le savaient même pas. Tu sais, moi, j'ai quitté l'équipe de foot. Fait que comme moi, je suis plus un étudiant athlète. Fait que moi, je m'attache moins à ça. Ben, ça me concerne plus, mais je suis d'avis qu'il faut... Moi, je pense à vous qui... Hey, crèche chez vous, même pas accès à un gym... Pour te faire de la muscu, puis
c'est quelque chose, là. Puis ça fait longtemps là, que c'est année 9, là. Je veux dire, à l'automne, au printemps passé, là, c'était quelque chose, là. Tu sais, quand il y avait encore zone rouge, jaune, orange, je te dis, là, on s'entraînait, mettons, 3 semaines, parce qu'on était en zone orange. Là, on tombait en zone rouge. On avait un mois où on pouvait pas s'entraîner du tout. Puis après ça, on retombait un autre 2 semaines, mais c'est bizarre, là. C'est pour la motivation, là, aussi, là. Je veux dire, tu y vas, tu t'entraînes pendant 4 fois semaine, pendant 2 semaines, puis là, du jour au lendemain, tu peux plus rien faire. C'est étrange. C'est pas le fun. C'est trop on and off, puis c'est pas l'idéal, mettons, pour un athlète aussi, pour un programme d'entraînement, là. Puis après ça, je veux dire, quand t'as passé 3 semaines à t'entraîner sur la piste, puis là, après ça, que pour le mois d'après, parce qu'on est en zone rouge, il faut que tu fasses des entraînements dans la rue... tout seul, c'est moins le fun que d'être 3-4 sur une piste à s'entraîner ensemble.
Non, c'est... On va s'en sortir, j'espère. Ouais.
Ben oui, l'année prochaine, il va y avoir une saison.
Oh, non,
on va croiser les doigts.
Oui, moi je vais y croire, puis dur comme faire, au pire, ça va être là, mais en espérant que, tu sais, on sait pas, peut-être qu'ils vont annoncer la semaine prochaine.
On sait pas.
On sait pas.
Mais tu sais, c'est ça que je parle. Justement, je parlais avec mes collègues de ça. Parce que ça une autre. Je vis avec quatre collègues. Puis les quatre sont tous dans l'équipe d'athlétisme.
Nice.
Fait qu'on est, en fait, on est la track house qu'on appelle. Mais c'est ça, on en parlait justement. C'est que même si là, du jour au lendemain, on apprend qu'on a quand même une saison qui reprend dans un mois. On va voir les U Sports, les championnats canadiens un mois et demi plus tard. Je veux dire, ça fait quand même une couple de semaines pendant les fêtes, on s'est pas mal moins entraîné, la motivation est tombée, on n'est plus dans un mood de compétition. Je serais content là, qu'il y ait une saison qui reprenne, mais ça serait pas pareil. Ça serait pas la même genre de compé. Le monde en Ontario, leurs mesures sont retardées sur nous aussi. Tout le circuit serait différent. Personne n'aurait pu compétitionner en même temps à travers le Canada. Fait, je veux dire, je serais content. Ça serait le fun, mais ça serait un peu tard.
Un bémol, mettons.
Je veux dire, ça serait une super mesure, ça serait le fun que le gouvernement fasse ça, mais il aurait fallu le savoir avant.
Ouais. Enfin, bref. Allons, changeons de sujet.
Ouais.
Parce que, tu sais...
On en parle souvent, on en parle assez, du coup.
Ouais, c'est ça. Mais ça fait quand même du bien, parce que, tu sais, comme je t'avais dit, t'es mon premier invité depuis les fêtes, puis on avait pour moi... En tout cas, avant les fêtes, jamais j'aurais pensé à une situation comme ça. Là.
Ouais, aucun sens. Ça m'a vraiment frappé. Là. Pour vrai, je venais juste de finir ma session. Je venais juste de finir ma session. Puis quand il y a eu la conférence de presse, ils ont dit les sports intérieurs cancellés. On était mettons que l'humeur volait pas haut cette soirée-là chez nous.
je n'en doute pas.
Ouais.
Mais donc, c'est pas mal ça. Ben, comme on s'était dit en ondes, t'sais, on va changer ça avec un sujet plus léger.
OK.
Si je te dis le monde est petit.
Ouais. J'essaie de question.
Je m'en viens. Cher auditeur, auditrice, j'explique le contexte un peu. Moi, de mon côté, je suis parti au mois de mai 2019. Je suis parti un mois au Vietnam dans le cadre d'un stage scolaire, un stage académique. On était 20 personnes de Sherbrooke, incluant les profs. C'était la fin de notre voyage. On était à Hanoï, la capitale du Vietnam. Puis là, en tout cas, WTF, je comprenais pas. Moi, puis là, on se voit dans un
on
bar.
On s'est croisé dans un bar, ouais, à Hanoï, un soir, random.
Un mardi ou un vendredi. Ben, en fait, tu perds la notion du temps là-bas, mais.
Aucune idée. Oh. J'ai aucune idée, c'était quel jour.
Je.
Mais c'est juste vraiment le monde est petit, là. Je veux dire, tu sais, on savait l'autre était qui un peu parce que Sherbrooke c'est petit, là, je veux dire. Puis, il me semble, on s'est juste vu dans le bar, on était comme. Tu viens de Sherbrooke, toi? Mais on se connaît, là, right? C'était vraiment. Tu sais, puis Hanoï, c'est une ville de quoi? 8 millions d'habitants au moins? Je sais qu'il y a beaucoup. Genre, c'est une grosse ville. Tu sais, c'est la deuxième plus grosse ville au Vietnam, je pense.
Ouais, probablement la deuxième ou la troisième.
C'est une grosse ville, mettons.
Mettons, je mettrais pas beaucoup d'argent, mais je sais. Ah, c'est à ça que ça va servir l'ordi.
Ouais, on a un ordi à côté. Moi, je pense que c'est la deuxième. Je pense que Ho Chi Minh est plus.
Ah, ça, oui, par contre. Ça, je suis pas inquiet. En 2019, 8 millions de personnes. Right on point.
Mais bref, tout ça pour dire que c'était un drôle d'adon de croiser du monde à Sherbrooke à l'autre bout du monde comme ça. Là.
Nous autres, on partait, je pense, le lendemain. Genre, ça avait aucun sens. aucun sens. Puis là, du monde à Sherbrooke, là, tu penses que t'es tout seul au monde, puis t'as des Québécois qui se pointent. Il fallait le placer. C'était une méchante bonne histoire.
On s'était dit qu'il fallait placer ça.
Non, c'était prévu. On s'excuse. Le podcast était préparé. C'était tout linéaire comme truc. Mais, oh non, depuis ce jour-là, je me rends compte. Ouais, le monde est petit, puis ça n'a aucun sens. Uh-huh. Ça fait réagir plein de choses. Genre, tu te dis, on pense qu'avec c'est grand. Ou bien même que pour plusieurs personnes, Sherbrooke, c'est grand. Genre. Ben, à chaque fois, je leur dis non.
Non. Donc, vraiment pas.
Les personnes qui aiment le même genre de truc, genre, tu sais, je prends un exemple, ceux qui aiment sortir, ben, ils vont se finir par se connaître un moment donné. Genre,
c'est pour ça que tout le monde si t'as grandi à Sherbrooke, tout le monde se connaît. Là. Ouais, ouais. C'est pas gros Sherbrooke. Là, là où ça devient plus gros, c'est à l'université parce que là, il y a du monde qui arrive de partout. Là, mais je veux dire, secondaire, cégep, là, tout le monde se connaît à Sherbrooke. Là.
C'est pour ça que je pense que c'est une belle vibe, c'est qu'il y a plein de monde d'ailleurs, puis ça fait un gros mix, ouais. Genre. J'aime ça, mais...
Effectivement.
Ah, il fallait glisser un mot, aucun rapport avec l'athlétisme ou avec le verre, mais bref, pour changer, pour aller à un sujet encore plus loin, tu sais, je me rappelle justement, on s'était... Je sais pas si toi tu t'en rappelles, nous autres, on s'était parlé, je pense même que c'était à ce moment-là qu'on avait parlé d'athlétisme puis de choix du nid, genre. Je me rappelle que t'étais en Sherbrooke puis Laval à ce moment-là.
Pas eu Laval. J'ai jamais considéré.
T'avais-tu considéré McGill? Ouais, c'est
McGill,
ça, t'avais considéré McGill.
J'ai considéré Guelph aussi.
C'est ça, t'avais considéré les trois.
Mais Laval, ça n'a jamais été dans mes choix, puis je veux le dire bien clair sur les ondes. c'est parce qu'on a vraiment. Sherbrooke-Québec a une certaine rivalité en athlétisme. Fait que
je mets demain un programme, j'imagine.
Pas mal dans l'histoire. Ouais, pas mal, là. Mais je pouvais juste pas aller à Laval. Ça a toujours été un nom catégorique pour moi.
C'est ça qu'on s'est discuté, puis tu sais, ton idée était bonne, puis ça c'est un pas un appel, mais on vise surtout les athlètes de Sherbrooke, tu sais. Je me rappelle, tu avais dit, c'est chez nous, tu sais, porter crowd ici, pourquoi pas, tu sais, essayer comme de justement, genre, imagine gagner à Sherbrooke, genre. On s'était dit à peu près la même affaire, puis je pense que on avait déjà fait un lien avec le foot aussi, genre. C'était super intéressant, puis j'imagine que ça a été quelque chose qui a dicté ta décision.
Ben aussi, en fait,
ou pas vraiment, ou peu importe.
Ouais, quand même. En fait, c'est sûr que tu sais, je m'entraîne en athlétisme depuis longtemps. Fait que les coachs du Vert et Or, ils me connaissent depuis que j'ai 14 ans.
Luc, il gère ça depuis, quoi, 60 ans?
Genre, ça fait longtemps qu'il est en athlétisme. il connaît ça, tu sais. Puis il y a Luc, mais il y en a d'autres là, qui, non, même vraiment. S'ils m'ont pas coaché, vraiment, ça n'a pas été mes coachs. Ils me connaissent de nom et de vue parce que, comme je dis, le monde de l'athlétisme, c'est pas le monde le plus gros. Là. Que ce soit au civil, Vert et Or, on s'entraîne tous sur la même piste, que ce soit la piste intérieure quand c'est la saison intérieure ou que ce soit la piste extérieure le reste de l'année. On est tout le temps tous sur la même piste ensemble, on se connaît. Fait que c'est sûr que les coachs ont fait certaines mesures, puis ils m'ont invité, mettons, à des camps d'entraînement et tout. Ils voulaient que je vienne à l'université de Sherbrooke. Moi, c'est sûr qu'ayant grandi à Sherbrooke toute ma vie, j'avais vraiment le besoin d'aller voir ailleurs aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai fait l'exercice d'aller visiter d'autres universités. J'ai parlé à plusieurs... C'est sûr que quand j'étais plus jeune, fin secondaire et cégep, aller aux États-Unis, NCA, ça a été dans mes objectifs. Puis j'ai essayé de parler un peu à des universités américaines.
Par des agents ou directement des unis?
T'as-tu fait... Directement. Ben, j'avais parlé directement okay. des unis, mais ça n'avait pas fonctionné. Puis... T'sais, avec du recul, je suis quand même content que ça n'ait pas fonctionné. On voit, c'est un autre sujet, là, mais on voit quand même que beaucoup d'athlètes, d'athlétisme québécois qui s'en vont NCAA se brûlent. Parce que les athlètes au Québec sont pas construits de la même façon qu'aux États-Unis. T'sais, aux États-Unis, ils ont tellement d'athlètes qu'ils peuvent les driller. Je veux dire, s'il y en a un qui ne performe pas, c'est correct, ils en ont 10 autres. Tandis qu'ici, on a beaucoup moins d'athlètes. Fait qu'on en prend plus soin de nos athlètes. On est plus fragile. Fait que des fois, ce que ça fait, c'est qu'un athlète québécois qui va sur le circuit américain, ben, ils lui font faire du surentraînement, puis ça finit que cet athlète-là, il casse, puis il ne performe plus. Fait que, avec du recul, puis surtout un athlète de combiné, parce que eux, c'est juste pour les points. Là-bas, c'est all about the points. Fait que si je suis un athlète qui est capable de faire des points dans chaque épreuve, ben ils vont me mettre dans chaque épreuve. Fait que moi, personnellement, je me serais fait brûler si j'étais allé
C'est la première fois que j'entends ce genre de...
C'est comme ça. Ouais.
Ah, ouais.
Ils sont rares, les athlètes québécois qui percent NCAA. Il y en a, mais ils sont rares. Ils sont plus rares.
OK, parce que c'est pas développé de la même façon. Ouais. Mais ça va avec la culture. C'est extraordinaire.
Ben, ils ont 10 fois plus de population que nous. Là. Ils ont 360 quelques millions, puis nous, on est 35, 36 millions. Je veux dire, c'est vraiment ça. Là. Eux, ils ont vraiment de la relève, ils ont de la profondeur. Là. Au high school, il y a certains gars à high school là-bas qui font des performances que nous, on fait à l'université. Je veux dire, c'est vraiment fort, mais c'est une machine de production d'athlètes là, là-bas.
Ah, c'est fou.
En gros, tout ça pour dire que malgré que j'aurais vraiment voulu essayer cette expérience-là, ça n'a pas à donner. J'ai quand même essayé de regarder pour Guelph. Guelph, ça, je leur ai parlé au championnat canadien en, je pense, 2017 ou 2018. 2018. J'avais parlé à Guelph, Toronto, puis McGill. Ouais, c'est pas mal ça. Puis Sherbrooke, évidemment. Fait que Guelph, j'étais allé faire une visite pendant deux, trois jours là-bas. Sérieux, j'avais vraiment aimé ça. Je dirais que c'est mon deuxième choix. C'est vraiment la meilleure équipe au Canada. C'est vraiment, en ce moment, là, dans les dernières années, là, ils sont vraiment, vraiment forts. Là. Puis j'avais quand même voulu... j'avais quand même pas mal regardé pour aller là. Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait venir à Sherbrooke au final. Premièrement, c'est où... J'étais blessé. T'sais, je veux dire, j'avais mon genou et pendant cette période-là, il était présent. Fait que je me disais, aller payer plus cher pour aller dans une autre université qui a un niveau d'éducation pas mal équivalent à celui de Sherbrooke, je trouvais que c'était plus risqué. C'était vraiment plus risqué. Aller payer plus cher, aller à 12 heures de route de chez nous avec une blessure. Si j'avais pas eu la blessure, une autre histoire. Mais là, avec la blessure, c'était risqué. C'était pas sûr que ça allait marcher. Aussi, il y a le fait que les deux années avant que je rentre à l'université de Sherbrooke, ils m'ont invité dans les camps, dans un camp d'entraînement qui s'appelle le camp de côte. C'est un camp qu'on fait, qu'on fait à l'automne. C'est pendant une fin de semaine, on s'en va au lac Mégantic, toute l'équipe, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis ça, étrangement, ça a vraiment joué un rôle. Surtout le camp juste avant que je prenne ma décision là, de l'université, fait que c'était le camp en 2018. C'était comme dans ce coin-là que je devais prendre ma décision pour quelle université que j'allais aller. Puis ce camp-là m'avait vraiment pesé dans la balance parce qu'on avait vraiment été une famille, puis j'avais trouvé que l'esprit de famille du Varior était vraiment puissant. Puis je savais que je le retrouverais pas ailleurs aussi, cet esprit-là. En plus, le fait que ça soit chez moi et tout, le choix s'est fait un petit peu tout seul après avoir fait les visites à McGill, à Guelph et tout, ça a vraiment. Le choix s'est fait naturellement de venir à Sherbrooke. Et aussi le fait que on dirait que je préfère être un athlète qui performe dans une université qui va pas finir dans le top 3 nécessairement, mais je préfère essayer d'amener une université qui est un petit peu plus loin dans le classement, plus haut, que d'être un nobody dans une équipe genre super puissante.
J'aime l'attitude.
Moi, je suis un peu plus underdog comme. J'aime plus ça, mettons.
C'est parce que. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais. Je peux faire un comparatif avec le foot, puis là, mm-hmm. on partira dans peu importe, vous interprétez ce que je dis, peu importe, mais tu sais, quelqu'un qui peut, un stud, là, tu sais, va à Laval, tu peux y aller, puis c'est un méchant bon choix, tu sais, j'en voudrais jamais, tu sais. Mais l'attitude inverse de, ah, pourquoi je viens pas ici à Sherbrooke, justement pour
faire monter cette équipe-là.
Puis... Why not?
Exact.
C'est une attitude parmi une autre, puis si tu la fais pas, ben c'est bien correct, là, c'est chacun son parcours, puis si c'est mieux pour toi d'aller telle place, ben fine, mais c'est quand même, moi je trouve ça honorable, cette attitude-là, tu sais, que tu dis, ok, fine, peut-être que t'auras pas 4 bagues, mais au bout de la ligne,
c'est ça.
T'auras essayé.
Ouais, puis je veux dire, moi je sais pas, j'aime ça, je préfère, c'est quoi l'expression, c'est big fish in a small pond versus small fish in a big pond, là. Je veux dire, je préfère être un petit poisson, un gros poisson dans une petite... Une petite piscine.
Oh, non, c'est la première fois que j'entends cette expression-là est bonne.
Ah ouais?
Ouais.
En français, ça marche moins bien, je trouve, mais en anglais, c'est pas fait.
J'avoue, ça sonne bien. Là. Non, t'as tout à fait raison. Fait que, tu sais, content de voir qu'un stade de Sherbrooke soit resté à Sherbrooke.
Ouais, puis je regrette pas ma décision, là. Je veux dire, au niveau scolaire aussi, j'adore l'université. Niveau social, j'adorais l'université avant COVID. La session et demie que j'ai passée sans les mesures et tout. Là. Ouais, c'est ça.
Ah, cette époque-là.
Ouais, cette époque-là.
Tu sais, moi, j'ai. Pour la cause, là, pour l'expliquer, j'ai connu 2 mois et demi présentiel. Je suis rentré à l'hiver 2020.
Janvier, février, ouais, c'est ça.
C'est. Puis là, ça brise. T'es comme, moi, je suis parti de là. Puis là, désolé de revenir là-dessus, ça va prendre 30 secondes. Mais je suis parti de là en vacances en 2 semaines. Oh, on va revenir. Oh!
Ouais, au début, on était tous bien contents, là, des petites vacances.
Sérieux, ça prenait un break.
Ah, c'était le fun. Moi, j'étais vraiment content au début, je me souviens. On avait 2 semaines, pas d'école, pas de devoirs, pas rien. Puis il n'y avait rien d'ouvert, pas de travail, rien. C'était le fun au début, un petit 2 semaines. 2 semaines qui tournent en 2 ans, c'est moins le fun. Là.
C'est triste. Tourner de même comme tu le viens de le faire.
Ah, ouais. C'est un peu ça.
C'est ça qui s'est passé. Oh, Dieu du ciel. Ah, mais au-delà de parler encore une fois de la COVID, il y a une question qui me vient en tête. On n'a pas parlé de... Tu t'as dit... Tu t'es lancé dans l'athlétisme jeune, 9 ans, comme un peu... Comment je peux le dire? Naturellement, tu sais, ah, pourquoi pas, tu sais, j'essaye ça. Mais au bout du compte, est-ce qu'avant, tu sais, mettons, ta famille, es-tu des fans d'athlétisme? Okay, ouais, est-ce que, mettons, je prends un exemple, est-ce que Sophie, elle avait vu les Olympiques de 2008 avec Usain Bolt, puis ça l'avait fait comme, waouh, ok. Est-ce que c'est un peu ton cas ou pas du tout?
Non. Pour vrai, moi, c'était vraiment. Ben, peut-être que j'avais. Peut-être, tu sais, je dis pas, j'ai sûrement vu les Olympiques. C'est sûr que j'ai regardé les Olympiques de 2008 puis je trouvais ça le fun, mais ça a vraiment été comme. Ça te tente. Hey Laurent, ça te tente-tu d'essayer l'athlétisme? Je me souviens encore du moment où on avait décidé ça. T'étais sur le patio dehors, puis on regardait. C'est dans le journal, dans le temps qu'on regardait encore le journal, tu sais. On regardait encore.
On est rendu vieux.
Ben là, c'est vrai, on regardait plus. Tu sais, le journal papier, là, on était dehors, on regardait ça, puis on avait vu une annonce du club, semble, puis on avait. Mon père m'avait dit ça te tente dessus, puis j'étais comme ouais, ça me tente d'essayer ça. Fait que j'avais essayé, puis de là, c'est juste parti vers le haut. Là. Puis le sport-études, c'est quand même un point assez le fun à
c'est
aborder.
C'est vrai, tu es allé au trio, mais ouais. Oui.
Mais c'est vraiment un point le fun à aborder, mais le sport-études a aidé à ce que je sois encore en athlétisme. Je veux dire, c'est une formule parfaite. Je me lève le matin, pendant un bon 2 heures, de 8h30 jusqu'à 10h30, on a un entraînement. Puis là, chaque matin. Chaque matin de l'année, de 8h30 à 10h30, on a un entraînement. Après ça, on prend notre douche, on retourne, on a un cours à 11h30. Puis on a 3 cours, on fait notre journée après. Mais chaque matin, on commence notre journée en faisant notre sport. Fait que moi, déjà là, une boule d'énergie, je suis plus calme en classe. Déjà là, c'est le fun. Puis ben, tu peux faire ton training, puis avoir ta soirée. Puis chaque jour, on peut s'entraîner. Fait que ça fait c'est vraiment le fun. C'est vraiment une routine parfaite. Puis ça, c'est sans compter tous les bonus que le sport-études amène. Exemple, on a fait des camps d'entraînement. Excuse-moi, au secondaire, j'ai fait 3 camps d'entraînement en Floride. Au secondaire. Pas beaucoup de monde qui peuvent faire ça. Ouais.
Mais, OK. Continue. Après, tu vas avoir des questions.
C'est parfait. Mais, c'est ça. Notre coach, Marc-André Roy, il a vraiment fait grossir.
Je connais pas Marc-André.
Marc-André, il a surtout été au sport-études pendant tout mon parcours. 1 an ou 2 avant moi, jusqu'à 3-4 années après moi. Puis il a vraiment fait grossir le sport études. Moi, l'année avant que je rembarque, même l'année que je suis embarqué, il y avait peut-être une dizaine d'athlètes. L'année que je suis sorti du sport études, on était 50. Je veux dire, oh, il a vraiment fait grossir ça.
Oh mon Dieu, OK.
Mais tu sais, je veux dire, moi, j'étais arrivé en secondaire 1, puis ça, c'était la première édition. J'ai été chanceux. Mais c'était la première édition du camp d'entraînement en Floride. Fait que là, toutes les secondaires ensemble, c'était la première édition, puis c'était la première fois qu'il amenait des secondaires 1 aussi. Fait que j'ai vraiment été chanceux, mais on est allé faire un camp d'entraînement de 2 semaines. J'étais en secondaire 1, puis on avait un camp d'entraînement de 2 semaines en Floride. On s'entraînait sur le National Track Kenfield Center. J'ai rencontré des sprinteurs. J'ai eu la signature de Tyson Gay, qui est un sprinteur américain. Je veux dire, okay. On s'entraînait sur la même piste que des OG. Là. Je veux dire, c'est le National Track Center d'Amérique. En ce moment, sur Instagram, mettons, quand je vois des vidéos de gars de gars d'athlétisme américain ou whatever, ils s'entraînent sur cette piste-là. Puis nous, on s'entraînait avec ces gars-là, puis j'avais 12 ans. Ça, c'était le premier camp. On est allé. Je suis retourné en secondaire 3, puis je suis retourné en secondaire 5. Sur la même piste.
Quand vous partiez? L'été? Non.
On partait à la semaine de relâche.
Ah ben oui.
En mars. Ouais. Souvent, il y en a un aussi, c'était à avril, ouais. Comme ça, on avait une semaine de congé, puis on avait juste à prendre un congé d'une semaine avec le trio. C'était vraiment parfait, là. Puis c'est des expériences de fou. J'y repensais dans les derniers mois. Là. Je me souviens, un moment donné, je parlais de ça à ma mère. J'étais comme, c'est pas n'importe quoi. Là. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'ils ont fait trois camps d'entraînement à l'international, au secondaire. Là. Je veux dire, c'est 2 semaines à chaque fois, on s'entraîne sur des pistes mondialement reconnues. Puis...
Mais ça te craint pour le reste de ton parcours? Mais ouais, en tout cas,
vraiment.
Où est-ce que... je savais pas que c'est aussi intense.
Ouais, ouais. Puis on continue à le faire, je pense. Là, c'est plus Marc-André. Je sais pas si le nouveau coordonnateur du sport études, c'est dans ses plans. Mais on continue à faire ça, je pense, les 2-3 années après que je sois parti que j'ai fini mon secondaire. Puis c'est vraiment le fun. Puis on en a fait d'autres au cégep. Après ça, mes 2 années de cégep, on est allé. En 2017, on est allé en Californie, puis en 2018 aussi en Californie.
Où en Californie?
On était dans le coin de Los Angeles.
Pas chien.
Non, c'était assez le fun aussi. Tu sais, c'est des camps d'entraînement, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, puis on a une couple de journées où on va juste explorer, on a du fun, puis on est allé voir. Deux des trois camps que j'ai fait. Non, je pense qu'on est allé voir 2 games de la NBA en Floride, puis. Une game des Clippers à Los Angeles aussi. Je veux dire, ça nous permet de faire plein de choses. C'est vraiment le fun. Ces expériences-là, là, incroyable pour vrai pour le secondaire. Là.
Mais je savais. Voyons, ça, c'était, que ça n'existait pas de même puis que ça fasse des camps aussi jeunes. Non, c'est. Ouais. Ben, de un, ça motive les jeunes.
Ben oui.
Concrètement, à t'entraîner, mais juste.
Ben avec tes amis en Floride aussi, là, je veux dire, c'est tous les aspects de ça sont le fun. Là. Tu manques de l'école, tout peut être tout est le fun pour un jeune du secondaire.
Oh, là-bas, là. C'est magique. C'est OK. C'est pour ça compte que le fait que le sport études, autour, ça soit fait comme ça. Puis là, je dis au trio. À Sherbrooke, c'est comme ça. Là. C'est la référence niveau sport études, c'est le triolet. Ouais, dans le sens que, surtout pour, en fait. Non, c'est la référence à Sherbrooke pour l'athlétisme, c'est pour d'autres sports.
Mais pour le sport en général, t'sais, je pense que le triolet, c'est pas mal.
Parce que tu sais, moi je dis ça, si j'allais à l'école juste à côté au Mont-Saint-Anne, puis tu sais, comme c'était pas fait de la même façon, vraiment pas, puis je veux pas qu'on comparera pas ça, là, pas du tout. Là. Ce que je veux dire, c'est effectivement, il y a des ressources pour beaucoup de sports au trio, puis c'est une belle école pour les athlètes, là, sincèrement. Puis c'est vrai que quand tu y penses, wow!
Mais
sport études,
athlétisme, on a toujours été un petit peu plus détaché du triolet que les autres sports. Ben, c'est un peu normal.
Parce que tu courais à l'université.
Ouais, oui.
Non.
Mais ce que je veux dire, c'est que tous les autres sports, ils courent avec la camisole Arfan, triolet Arfan. Nous, on court avec Club d'athlétisme de Sherbrooke. Parce qu'il n'y a pas de... Même quand on était scolaire, les compétitions scolaires, on représente la région. Mettons, provinciaux, là. Ben, en fait, le seul moment où on courait avec des camisoles du triolet, c'était pendant les régionaux, mettons, les championnats régionaux. Le reste du temps, tu sais, c'était, on représentait.
Est-ce que vous gagnez toutes, by the way?
Ouais, toutes.
Sans exception.
Ouais, je peux. Le trio, c'est chaque fois.
De un, mettons, on fait un chiffron sur 100 athlètes, vous étiez 80. Non, wow. Je dis n'importe quoi. Ouais, là, non, c'est...
Mais je comprends ce que tu veux dire.
Puis des studs, par-dessus des studs.
Ben, je veux dire, c'est tout le monde qui font de l'athlétisme avant de rentrer au secondaire. Ouais. je dirais que 80% des athlètes d'athlétisme de Sherbrooke finissent au trio. Parce que c'est là le seul programme, genre, tu sais, qui
entre. Pousse.
C'est ça. Je veux dire, sinon, parce que c'est la seule école qui a vraiment un programme d'athlétisme. Les autres, il faut que tu t'inscrives au club civil. Mais c'est ce qui est très bien aussi. Il y en a plein qui le font, là, 2 entraînements du soir par semaine. C'est super bien aussi. Mettons, j'ai mon coloc qui fait encore de l'athlétisme avec moi, qui est capitaine du Varior en ce moment. Lui, il était au trio, il était en santé globale. Il n'a jamais fait le. Il a jamais fait le sport études, puis regarde, il s'est entraîné les soirs, puis regarde où il est rendu.
C'est ça, chacun son parcours. C'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. Un de mes bons chums de foot du cégep, lui, était au sport, en santé globale, ou tout au trio. Il a fini universitaire là, à Bishop en ce moment. Là.
Mais c'est ça, tu sais, juste en ce moment, dans le Var et Or, on est à peu près 4-5 qui viennent du sport-études. Tu sais, je veux dire, c'est quand même bien. C'est le monde qui continue l'athlétisme là, après le sport-études.
Ben oui, puis ça forme aussi. Puis là, tu me dis, je me trompe, si t'es pour casser, ce que je veux dire par là, c'est que ça t'apprend à avoir un gros horaire. Tu sais, tu sports souvent comme ça, ben si t'es pas désolé l'anglicisme, de l'endol au secondaire, mais tu seras pas de même au cégep et à l'uni. Fait que ça te permet d'ouvrir. De regarder où est-ce que ça pourrait aller, autrement
ouais.
dit. Là.
Ouais, ouais, ben, tu vois tes propres limites aussi, oui, tu exact. Vois ce que tu es capable de faire et tout. C'est sûr que la formule secondaire par rapport à cégep, c'est là que ça prend un petit step. Parce que dans le fond, mettons, secondaire, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est vraiment. T'as un entraînement le matin, tu t'en vas faire tes cours. T'as un entraînement le matin, c'est tout le temps, c'est une routine, c'est pareil. Dans ce cas, au cégep, ben, tout le monde le sait, les horaires de cégep, ça peut être d'une gros n'importe quoi, comme on peut avoir des cours le soir, qu'on va avoir un trou de 8 heures entre nos cours, c'est pas pareil. Fait qu'il y en a beaucoup que c'est au cégep qui réalise que, ok, non, c'est quand même dur. Surtout ceux qui viennent du sport-études, qui ont un horaire de même, ben là, ils arrivent au cégep, là, il faut qu'ils organisent eux-mêmes leur horaire. Tu sais, c'est toi qu'il faut qu'ils t'arrangent pour aller à ton entraînement à 4 heures, puis si cette journée-là, à 4 heures, t'as un cours. Mais tout bad, tu le fais tout seul ton entraînement avant, mettons. Fait que pour certains, ça peut être plus dur parce qu'un entraînement tout seul, c'est pas pareil qu'un entraînement avec plein de monde. Fait que des fois, quand il fallait commencer à s'organiser par nous-mêmes, ben en sortant du secondaire, des fois, il y en avait qui lâchaient à cause de ça aussi.
Puis là, je sais pas pourquoi tu parles d'horaire, puis ça m'intrigue. T'sais, je connais pas les quotidiens d'un athlète d'athlétisme du Var-et-Or, mettons. Tu sais, comme. Je te mets un exemple, nous au foot, l'hiver, on s'entraîne. Tu choisis ton horaire, un gym par jour pendant tel temps, après ça, tu rajoutes des pratiques progressives. Mais vous, vu que c'est un sport à l'année, oui, ben, comment, par exemple, on oublie le COVID, tes types d'entraînement, comment tu alternes ça? Est-ce qu'il y a une. Je sais pas si ça va par cycle d'entraînement.
Ça dépend des groupes d'entraînement aussi. Chaque groupe d'entraînement va avoir une mentalité différente parce qu'ils ont un coach différent. Un horaire différent aussi, surtout avec COVID, puisqu'on peut pas être tout le monde sur la piste en même temps. Mais mettons qu'on prend l'automne, vu que c'était plus une. Ben, pas normal parce qu'il y avait aussi le COVID, mais c'était vraiment mieux là, l'automne. On était quand même proche de vivre normalement. Je dirais, mettons-nous avec Luc. Ben, Luc, c'est un coach qui est tout le temps présent, dans le sens que.
Il dort à l'uni.
Il dort sur la piste. Il aime sa piste, puis il dort sur la piste, dans le sens que. Ben c'est vraiment positif ce que je suis en train de dire là. N'importe quelle heure.
Luc, c'est une référence. On avait parlé avec Sophie, on leur dit.
Ouais, oui. Oh, oui. Je veux dire, Luc, n'importe quelle heure que je vais venir à la piste ou je vais lui écrire, hey Luc, je peux-tu venir à midi au lieu de 2h30? Il va dire, ouais, je vais être là. Il est tout le temps là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que ça nous donne vraiment une souplesse d'entraînement. Tu sais, chaque personne a des cours à des heures différentes. Fait que, mais Luc, il peut pas mal, presque tout le temps être là pour nous. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que. Moi je faisais plus des haies. Fait qu'on était 3 athlètes de haies. Fait qu'on essayait de se coordonner. Fait que mettons lundi, training à 2h30. On va les 3 sur la piste. On est juste nous 3 avec Luc. Puis on drill des haies. On est les 3, on fait des haies, on fait des haies, on fait des starts. Puis mettons le mardi, normalement, c'est une pliométrie avec une musculation. Fait qu'on fait de la plio sur la piste. Puis après ça, on descend à la muscu. On y va plus le soir, normalement. Puis. Les cycles d'entraînement, les entraînements changent, mais cet automne, mettons, ça a pas mal gardé tout le temps cette structure-là. Fait que lundi, c'est plus course ou du spécifique. Fait que les sprinteurs vont faire du sprint. Là, je parle du groupe de Luc, qui englobe les gars de combiné, ben, le monde de combiné, les sprinteurs.
Ouais. C'est ça, le luxe, c'est surtout ces...
Ouais,
c'est
les lanceurs. Okay.
Les lanceurs, ouais, les lanceurs aussi. Aussi, c'est vrai.
Moi, je parle du groupe, notre groupe plus de sprint. Après ça, il y a le groupe de Yves aussi qui s'occupe, qui fait les sauts. Le groupe à David Follet qui fait la perche. Il y a plus Marc-André Roy qui fait plus le long un petit peu. Ben, le sprint long, je dirais. Puis après ça, il y a tout le long. Là. Fait qu'on, tous ces groupes-là ont des horaires différents. Moi, je parle de celui de Luc, là, plus. Mercredi, c'est une autre journée de course. Normalement, le jeudi, on a off. Le vendredi, on a un autre training course. Fait que nous, ça peut être des haies, les autres, ça peut être des blocs, du sprint. Puis le samedi, c'est une musculation aussi. Fait que c'est à 5 trainings sur 5 jours sur 7, on s'entraîne. On a une pause dimanche puis jeudi.
OK, ça fonctionne comme ça. Puis c'est ça, comme ce que c'est ça. Tu me l'avais expliqué, ça marche par épreuve. Fait que vu que tu fais des haies, tous les athlètes haies le plus
on
possible.
On essaie de se regrouper, mais tu sais, des fois, il y en a un qui peut pas avec les autres, ben il va venir en même temps que le groupe en général. Puis les autres, ils vont faire des départs de blocs, puis lui, il va faire des départs de blocs, mais avec une haie, tu sais.
Fait que ça. Ah, c'est cool. Ben, c'est vrai que c'est à cette époque-là, parce que je dis en ce moment, ça marche, fonctionne pas, mais bon, à ce moment-là, tu développes des affinités avec les mêmes personnes qui ont des épreuves. Puis là, ça permet de. J'imagine, tu sais.
Mais tu sais, en même temps, on voit. Tu sais, le monde du groupe à Luc, je m'entraîne tout le temps avec eux. Je veux dire, on se connaît super bien. Mais le monde des autres épreuves, on les connaît un petit peu moins. Puis c'est au courant de la saison. Tu sais, en septembre, on les connaît beaucoup moins, là, les sauteurs. Puis je dirais que c'est. Le moment où on commence pas mal plus à se parler, là, je dirais toute l'équipe, là, c'est après les initiations. Fait qu'on fait des initiations après la saison de cross-country, puis là, vers novembre, là, après ça, tu vois que l'esprit d'équipe est vraiment plus soudé après les initiations et tout. Puis le monde, il se parle plus entre les épreuves, le monde, ils sont moins gênés un petit peu. Ça brise les froids un petit peu, là, ça rend le monde un petit peu plus à l'aise.
Mais c'est vrai, t'as glissé le mot. Il y a beaucoup d'athlètes de cross-country en athlétisme et vice-versa. C'est-tu une majorité? C'est-tu juste moi qui rêve? Ou...
En fait, c'est que... Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'avant, les athlètes de cross-country n'étaient pas obligés de faire de l'athlétisme. Fait que dans le fond, ils faisaient leur saison de cross-country, puis après ça, ils arrêtaient. Mais je pense que depuis cette année ou l'année passée, je suis pas sûr, les athlètes peuvent... ils ont comme... Ben, s'ils s'engagent pour le cross-country, normalement, ils s'engagent aussi pour l'athlétisme. Fait que là, comme on a hérité de tout le groupe de cross-country, en plus, comme groupe de long dans l'athlétisme, fait qu'on les a comme... On les a rajoutés au groupe et on a initié comme tout le monde en même temps.
OK. Ouais. C'est quand même intéressant, parce que c'est vrai que c'est compatible.
Ben, je veux dire, c'est... C'est d'accord. Le cross-country, pour certains athlètes de long en athlétisme, c'est une... Pour certains, c'est une saison primaire parce qu'il y en a qui aiment mieux le cross-country. D'autres, c'est juste une préparation pour l'athlétisme. Ça dépend de chacune. Il y a plein de mentalités différentes pour ça. Là.
Non, c'est cool. Ça rajoute plus de monde dans l'équipe. Puis,
exact.
C'est aussi l'idée... Oui, les athlètes de cross-country auraient continué tout l'hiver à s'entraîner, mais l'idée qu'avec d'autres gens dans une compétition concrète, différentes, mais j'imagine que c'est cool aussi de vivre ça. Là.
Mais c'est techniquement, c'est deux équipes différentes.
Non, c'est ça.
Les athlètes sont dans l'équipe de cross-country et l'équipe d'athlétisme. Parce qu'il y a certains programmes qui regroupent certaines écoles, surtout je vois ça à NCA des fois aussi, qui regroupent vraiment les deux. Ici, c'est un petit peu plus séparé. Il y a les deux équipes différentes. Je veux dire, mettons, le monde de cross-country vont avoir une photo cross-country, une photo athlétisme.
Okay. Laurent, un immense merci pour ton passage en studio. J'ai super aimé l'épisode. En espérant te voir courir.
Ouais, moi aussi. J'aimerais ça. Cet été-là, on devrait pas avoir de problème parce que c'est dehors. Là. Cet été, je vais viser sûrement plus le 400 mètres L. Fait que si vous voulez venir voir ça à Sherbrooke, vous êtes tous les bienvenus.
Ça me parle. On va relancer tout ça plus tard, mais restez à l'affût. Parce que là, actuellement, le 20 janvier... Bon, on ne sait pas ce qui se passe pour le reste de la saison, mais écoutez, en tout cas, moi, au nom de tout le monde, moi, je vous souhaite que ça revienne vite pour toi, mais aussi à tes coéquipiers d'athlétisme, ça, c'est sûr et certain. Puis encore, un immense merci d'être passé au studio. Là.
Ben, merci à toi. C'était vraiment un honneur de faire partie de Portrait d'un athlète.
Merci.